De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Aujourd'hui, nous allons parler de films qui sont en salle depuis le 19 février. Des films attendus, d'autres qui le sont moins, mais on va essayer de vous donner envie d'aller dans ces salles. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors toi, Marine, c'est Louis Soud.
Oui, tout à fait. Voilà, donc film très attendu s'il en est, c'est le cas Richard Jewell. Un film un peu plus confidentiel, un film colombien également, Une mère incroyable.
Et puis toi Manu?
Deux films très confidentiels. Film italien, un franco-italien, puisque c'est réalisé par un Français, Amaro. Et puis, un film, alors c'est une coproduction asiatique, mélange Singapour,
ouais.
Voilà, Singapour, Chine, enfin bon, généralement c'est des coproductions.
Un film asiatique.
Wet Season, d'Anthony Chen.
Et puis moi, je vous parlerai de deux, de Filippo Medeghetti, alors qui lui est italien, mais vit en France et a tourné son film en France, dans le sud de la France. Et ce sera l'occasion de l'entendre parce qu'on a pu le rencontrer. On parlera du film 2 qui mêle deux personnages inhabituels. Décidément, ça fait beaucoup d'émissions. On parle de films qu'on ne voit que trop rarement dans le cinéma français. Là, ce sont deux femmes lesbiennes de plus de 60 ans, donc qui seront à l'écran. Et puis, on n'a pas parlé des entrées record de l'année 2019. Et donc, ce sera l'occasion de jouer une espèce de petit blind test pour découvrir les cinq films qui ont eu le plus de succès lors de cette année 2019, qui est déjà un peu loin, mais bon, on y revient quand même. Mais allez, on débute avec le film de Clint Eastwood. Très heureux de le retrouver, finalement, cet homme. Comment passer de héros à suspect numéro 1?
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire. Il nous faut un échantillon de voix. Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
En 1996, une affaire peu commune a ébranlé les États-Unis. Un homme, Richard Jewell, profil type de bon patriote américain, découvre une bombe prête à exploser alors qu'il fait son travail d'agent de sécurité pendant les JO d'Atlanta. La bombe explose quand même, fait plusieurs victimes, mais grâce à son intervention, le pire est évité. D'abord érigé en héros, Richard Jewell est peu à peu considéré comme suspect. Le FBI se met à penser que cet homme, frustré de n'avoir pu devenir policier, aurait pu poser lui-même cette bombe. Son quotidien devient alors un véritable cauchemar entre harcèlement des médias, affrontements juridiques et problèmes familiaux.
Jewell correspond au profil du poseur de bombes solitaires. Un homme blanc frustré qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros.
On publie ça.
Vous êtes un suspect, vous ne parlez pas. Je parle, dites-le.
Je parle pas.
C'est le moyen de vous disculper. Dites-le, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
Arrêtez de chercher à leur plaire.
On m'a élevé dans le respect de l'autorité.
L'autorité va vous bouffer tout cru.
Il y a une bombe dans Centennial Park. Vous avez 30 minutes.
Pardon, quoi?
Ces accusateurs sont deux des forces les plus puissantes du monde. Le gouvernement des États-Unis et les médias.
Je cherche vraiment à vous aider. Moi aussi, je fais partie des forces de l'ordre. Il y a une bombe dans Centennial Park. Vous avez 30 minutes.
Encore une fois, un peu plus fort.
J'expose les faits.
Vous avez bousillé la vie de cet homme.
Il n'y a pas plus coupable que votre client.
Ils veulent vous exécuter. Vous êtes prêt à vous battre?
Le cas Richard Jewell est le 46e film de Clint Eastwood, un jeune réalisateur américain. Alors aparté quand même, j'ai réalisé en écrivant cette chronique que Clint Eastwood était né en 1930. C'est-à-dire qu'au moment où il est né, à l'autre bout du monde, en Allemagne, Hitler imposait le parti nazi pour la première fois dans les élections. Non, c'est pour se rendre compte de son âge en fait, ça me paraît dingue. Bref, à 89 ans donc, Clint Eastwood continue de sortir des films chaque année. Et tout comme son précédent long métrage, La Mule, eh bien le cas Richard Jewell est à classer quand même dans ses films réussis. La force du film, ce sont ses acteurs, bien sûr, Sam Rockwell, Kathy Bates, Paul Walter Hauser qui joue le premier rôle, donc le rôle de Richard Jewell. Mais c'est surtout la force du film, et bien son personnage principal, que Clint Eastwood filme à juste distance, un anti-héros, un personnage assez représentatif finalement de la classe moyenne américaine, mais comme on n'en voit pourtant jamais dans les films. Est-ce que vous vous rappelez quand même avoir déjà vu un film dont le personnage principal soit obèse sans que ce soit le sujet du film? Ben, il n'y en a pas. Et pourtant, eh bien, ce personnage de Richard Jewell symbolise à lui seul tout ce qui fait l'Amérique profonde. Une Amérique qui mange beaucoup de junk food, qui croit en Dieu, qui voue un culte aux armes. Et on sent dans la façon qu'a Clint Eastwood de traiter ce personnage une vraie tendresse, une absence de jugement, sans pour autant qu'il le glorifie. Hein, parce qu'on l'a déjà vu quand même plus d'une fois tomber dans ce travers, dans la fascination pour ses propres personnages, comme c'était le cas dans American Sniper ou dans 15h17 pour Paris. Ici, le personnage de Richard Jewell sert également à démontrer de façon implacable comment les médias américains peuvent faire de quelqu'un un héros ou au contraire un paria. En revanche, il y a un personnage qui est très problématique, c'est celui de la journaliste Cathy Scruggs qui a dans la réalité, car c'est un personnage réel, hein, qui a contribué à retourner l'opinion contre Richard Jewell, elle est jouée par Olivia Wilde ici. Alors on l'avait compris hein, au vu de ses derniers films, ça fait un moment que Clint Eastwood ne s'intéresse absolument plus au personnage féminin, pourquoi pas. Le problème ici, c'est que le seul personnage féminin est complètement détestable puisqu'il dépeint Cathy Scruggs, comme une journaliste vulgaire, superficielle, arriviste et prête à coucher avec n'importe qui pour obtenir des informations. Ça fait beaucoup de clichés pour un seul personnage. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je suis assez fatiguée de cette image déplorable des journalistes que le cinéma américain perpétue allègrement. Il est d'autant plus facile de la dépeindre de façon peu flatteuse ben, que la journaliste dans la vraie vie est morte il y a plusieurs années, ce qui la rend quand même assez incapable de se défendre. D'ailleurs, il me semble que le magazine en fait, dans lequel elle officie va peut-être porter plainte contre Clint Eastwood à ce sujet-là.
Sur cette image dégradante. Voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'il parle des héros, surtout dans ses derniers films. Alors, tu as noté effectivement sur ce tueur d'élite qui revient d'Irak. Mais il y a aussi le film dont j'ai oublié le titre du film avec le pilote d'avion. Voilà. Qui était assez admirable sur le sujet, la relation entre quelqu'un qui finalement a l'impression d'être un héros, pourrait être un héros, parce que le média, les médias le montrent comme ça, mais finalement la frontière est ténue entre héros et zéro.
Oui, voilà. Mais il y a vraiment énormément de choses à dire. Là, j'ai vraiment restreint ma chronique, mais j'aurais pu vraiment faire 3 pages en fait sur ce que raconte le film et sur comment il le fait. C'est quand même, voilà, même si moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné dans le film, c'est un film qui est objectivement très réussi.
Oui, Manu.
Non, je voulais dire que Eastwood ne s'est jamais vraiment beaucoup intéressé aux personnages féminins durant toute sa carrière.
Non, c'est
il y a peut-être que 2 films, c'est l'un de ses
Million
tout premiers,
Baby,
Million Dollar Baby évidemment, mais certainement l'un de ses meilleurs qui s'appelle Brise, l'histoire d'une jeune hippie qui tombe amoureux d'un vieux beau.
Oh, comme par hasard.
Allez. Oui, mais il était jeune quand il l'a vu.
Et maintenant, nous parlons du Grand Prix du Polar de Cognac 2018 avec Amaré Amaro.
Comment fait-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Tuo fratello è morto.
E il corpo?
Non sarà sepolto qui.
Je suis surpris qu'il ait eu le Grand Prix du Polar, en fait. Ah parce que c'est pas exactement un polar. Mais bon, ça ressemblerait peut-être plus à un western moderne, finalement. Alors, ce n'est pas l'ambition qui manque à Amaré Amaro. Premier long-métrage tourné en Italie et en italien par un jeune cinéaste français, Julien Paolini, qui s'inspire ouvertement de l'œuvre littéraire de Sophocle, Antigone, reprenant les grandes lignes de l'intrigue. Alors, Antigone, c'est Gaetano, un jeune homme taciturne qui vit proche de son père, malade depuis quelques années. Désormais, il gère seul la boulangerie dans une petite ville sicilienne, communauté repliée sur elle-même où il n'a jamais été intégré. Alors, son frère aîné, petit truand local, décède au cours d'une rixe dans un bar, causant la mort de 2 personnes, au grand soulagement de la population. Alors, le grand soulagement, c'est pas les 2 personnes, c'est le frère qui décède. Alors, éloigné de son frère, Gaetano assume ses responsabilités familiales et décide de l'enterrer près de sa mère. Mais en Sicile, les traditions sont tenaces, le rejet des étrangers aussi. Les gens de mauvaise nature ne peuvent reposer auprès des honnêtes gens. La mère du village, l'intransigeante Enza, fait régner la loi comme un membre éminent de la pègre. Elle refuse à Gaetano l'accès au corps, une décision motivée aussi par l'amour fou qu'éprouve sa fille Anna envers Gaetano. Alors cette dernière va le suivre jusqu'au bout de son périple, quitte à mettre sa vie et celle des siens en danger. Alors raconté comme ça, hein, le récit de Sophocle a presque des allures de polar crépusculaire. On imaginerait aussi un western baroque dans la grande tradition européenne des films dits spaghetti. Alors Julien Paolini n'a visiblement que peu d'intérêt pour le cinéma populaire. Alors son désir est tourné ailleurs, du côté d'une vision plus austère et intimiste du 7e art. Bon, ce n'est quand même pas Jean-Marie Straub et Daniel Huyer, hein, les 2 zigotos intello qui ont donné aussi leur propre version d'Antigone au milieu des années 90. Les intentions là sont louables, mais le résultat peine à captiver. Étrangement, le manque de moyens se ressent également. Le soin apporté au cadrage et à la lumière, souvent naturel, bel écrin pour magnifier les paysages siciliens, ne suffit pas à sauver Amare Amaro du naufrage artistique. Eh oui. Julien Paolini s'empête dans un récit figé, accusant de gros problèmes d'écriture, à commencer par les personnages sans relief, uniquement déterminés par leur fonction. Ils n'existent pas à l'écran, débitant mollement des dialogues récités. Alors, voulu ou non, ce manque d'incarnation paraît plaqué, accusant une théâtralité artificielle et surtout maladroite. On assiste embarrassé à un film sans vie, d'une désarmante platitude, donnant surtout une image négative du peuple sicilien, présenté alors comme xénophobe et replié sur lui-même, pratiquement tout le monde. C'est assez d'ailleurs étrange d'un cinéaste d'origine italienne qui a une vision de ses origines aussi négative. Cette unilatéralité de point de vue s'avère même très gênante. La tragédie ne fonctionne jamais, elle n'est motivée par aucune émotion. Alors la fin dans le cimetière devrait être l'apothéose, elle devrait être grandiose, hommage au western baroque. Elle est expédiée avec une désarmante désinvolture, avec trois coups de fusil malheureux en guise d'action. Alors on ne doute pas de la sincérité du cinéaste qui se confronte à ses origines, mais on reste quand même tout de même extérieur à sa démarche. C'est-à-dire que sur le papier, c'est un film intéressant, mais à la vision, le film quand même pâtit de grosses faiblesses d'écriture et de mise en scène aussi.
Un amour lesbien clandestin, c'est le film 2 de Filippo Meneghetti que l'on va écouter.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Elles sont deux, s'aiment plus que tout, mais vivent cet amour dans la clandestinité. Quel est le problème? Elles n'ont pas la même confession? Elles sont trop jeunes pour vivre une histoire d'amour? Eh bien non, ces deux femmes qui s'aiment, Nina et Madeleine, ont plus de 60 ans. On dit deux parce qu'elles ne vivent pas ensemble, mais proches. Elles sont en fait des voisines, ce qui sépare leurs deux appartements. Eh bien, c'est le palier. Alors, vite foulé hein, pour rejoindre l'une dans son lit, l'autre pour dîner. Cet amour que Filippo Meneghetti s'empresse de nous montrer avec de fortes étreintes est donc clandestin. Et si on ne connaît pas de famille à Nina, Madeleine, elle, n'a jamais rien dit à sa fille, encore moins à son fils avec qui les relations sont conflictuelles. Les deux amoureuses ont pourtant un projet, hein, vendre leur appartement et partir à Rome. Madeleine promet qu'elle va tout révéler, mais ce n'est pas si simple. Il faudra assumer devant ses enfants toutes ces années de mensonges. Alors, imaginez, on voit sa mère en veuve inconsolée et on apprend qu'elle vit une relation amoureuse depuis des années avec la voisine qu'on connaît si bien. Bon, et bien face à ce genre de révélation, qui plus est parce qu'il s'agit d'une relation homosexuelle, les enfants les plus ouverts peuvent avoir des relents réactionnaires. Et puis, un événement dramatique va faire basculer cette histoire qui va rester dans le mélodrame, mais va s'immiscer quelque peu, finalement, dans le thriller. Cet événement va séparer les deux femmes pour mieux les unir. Filippo Meneghetti, réalisateur italien vivant en France, a eu un peu de mal quand même à tourner son film, hein, de par son sujet et ses personnages, des femmes âgées et homosexuelles. Formellement, la caméra se montre proche. Le réalisateur filme les corps âgés, l'amour, l'étreinte. Il se dégage de ce long métrage d'une certaine audace. On écoute Filippo Meneghetti, réalisateur de 2.
D'abord, la chose qu'on voulait faire, c'était créer un espace mental, qui est partagé par Nina et Madeleine. Et disons, du coup, au premier abord, on s'est dit, elles sont connectées. Vous savez, quand on est en couple, on devient télépathique. On dit un truc et l'autre personne peut terminer la phrase. Et quelque part, même à distance, même, voilà, ils ont le même imaginaire, la même chose qu'elles partagent. Financement, j'avoue, la chose la plus difficile dans le financement a été la vieillesse. Ça a été un vrai problème. J'ai franchement entendu plusieurs fois « Ah, si les protagonistes étaient plus jeunes, on financerait demain. »
Je voulais vous dire une chose qui est très importante pour moi. Je voulais vous dire que je vous aime.
Santé, maman.
Bonsoir, madame.
Bonsoir.
T'as rien dit à tes enfants, hein? T'as pas osé? C'est ça?
Je dis, ça pourrait être un mélodrame, mais en fait, je vais le tourner comme un thriller. Parce que pour moi, le film, c'est un thriller. Mon chef opérateur avait trouvé cette expression que je trouve très juste. C'était un thriller de mœurs. Et du coup, la musique, ça va avec. Parce que comme elle est codifiée, la musique dit les genres. Mais on ne devait pas aller trop loin dans le genre. Parce que sinon, les gens effacent l'émotion. Parce que ça devient mécanique, les genres.
Madame Girard, votre voisine est venue vous voir.
Madeleine.
C'est drôle quand même d'avoir choisi cet endroit pour prendre sa retraite.
Ah, ça, c'est le Colisée.
C'est marrant, on dirait Madame Dorn.
On a dit tout à l'heure que les corps, c'est le premier lieu de la politique. Donc,
oui,
les corps, c'était très important dans ce film. Montrer les corps, les montrer de près, les montrer honnêtement.
Montrer l'âge.
Montrer l'âge.
Elle ne peut pas retourner dans cet appartement.
C'était Filippo Meneghetti, le réalisateur de Deux, un film en salle depuis le 19 février. Tout comme Une mère incroyable, une femme avocate, un tournant de sa vie.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Sylvia est une avocate colombienne qui vit à Bogota avec sa famille. Un petit garçon qu'elle a fait, comme elle le dit, toute seule. Son meilleur ami gay, qui est le parrain donc, de son enfant, sa sœur, dont elle est très proche, et sa mère atteinte d'un cancer. Sylvia est impliquée, malgré elle, dans une affaire de corruption et interviewée à ce sujet par un journaliste assez virulent qui va pourtant, par la suite, tomber amoureux d'elle. Les deux quadragénaires débutent une nouvelle histoire d'amour, très mal perçue par la mère de Sylvia, dont l'état de santé se dégrade rapidement.
No, Silvia, eres una persona increíble, una mamá increíble.
Alors cela paraît presque inhabituel de voir un film colombien qui ne parle ni de guérilla, ni de cartel, ni de drogue. Non, non, le film de Franco Loli, eh bien finalement, pourrait se dérouler dans n'importe quelle capitale. L'histoire qu'il raconte est finalement assez universelle. Comment surmonter la maladie, la mort, comment vivre l'amour, comment être une bonne mère, comment rester intègre dans son travail. Autant de problématiques, de questionnements existentiels qui nous concernent tous. La particularité du personnage de Sylvia, c'est qu'elle vit tous ces événements en même temps. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater que les distributeurs français ont choisi un titre qui insiste sur son rôle de mère, alors que le titre original, Litigante en espagnol, signifie l'avocate, ce qui est donc son métier dans le film. Une mère incroyable est un récit initiatique. Sylvia, qui est, on le devine, dans le début de la quarantaine, doit apprendre à vivre différemment ce qu'elle a toujours connu, à être une mère, une épouse, une fille, alors que toutes les certitudes qu'elle avait jusqu'à présent s'écroulent. C'est un film qui, derrière son apparente simplicité, réussit vraiment à nous captiver. Je vous avoue que je n'étais pas forcément convaincue de la puissance narrative du film lorsque je l'ai commencé. Et c'est finalement un film eh bien, qui raconte une histoire très simple et qui le fait très bien.
Ce film, bon, sera peut-être pas dans toutes les salles. Hein. Il faudra effectivement regarder quel ah bah
avec
cinéma
un titre
le
pareil,
projette.
Non.
Mais Une mère incroyable, donc, c'est en salle depuis le 19 février. Et justement, on va faire le point eh bien, sur comment les gens se déplacent dans les salles. Ils se sont beaucoup déplacés, les spectateurs, en 2019.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
On n'a pas eu encore l'occasion d'en parler, mais l'année 2019 fut une très bonne année pour le cinéma en France, avec 213,3 millions d'entrées en 2019. Eh bien, c'est le deuxième plus haut niveau depuis 53 ans et une progression de 6% par rapport à 2018. Et pour la sixième année consécutive, eh bien, la fréquentation demeure au-dessus des 200 millions d'entrées. Alors, ce qu'il est intéressant de remarquer à partir des chiffres communiqués par le CNC, c'est que les mois les plus chauds sont ceux qui réalisent les meilleures progressions. En mai, plus 10%, en juin, plus 24,4% et même plus 30,8% pour juillet. Et dès qu'il fait trop chaud, eh bien, visiblement, on rentre dans les salles de cinéma. Oui, ouais, c'est ça. Mais quand on regarde dans le détail, si la fréquentation est tirée par le haut, eh bien, ça ne tient pas au cinéma français. Les entrées dégringolent de un peu moins de 6%. La part de marché se maintient à 35% contre 39,3% en 2018. Et au contraire, eh bien, la part de marché du cinéma américain est, elle, en augmentation. Elle est estimée à 55,2% contre 44,1% en 2018. La progression est si forte que la part des films non américains et non français eh bien, perd quasiment 5 points. Alors bon, on peut se dire qu'effectivement, ils sont forts, ces Américains. Ce succès, eh bien, ils le doivent essentiellement aux suites et films de licence type Marvel, évidemment. À noter qu'il y a 5 films à plus de 5 millions d'entrées. Et quand on regarde les genres, alors on ne va pas être étonné. Avec 71 films, c'est la comédie qui réalise plus de 29,3 millions d'entrées. Ensuite, il y a tous les films en animation 3D. Il y a 19 films pour 27,1 millions d'entrées. C'est une grosse part de marché. Et puis, les films d'aventure-action, c'est 31 films donc pour 26,8 millions d'entrées. Puis, côté distributeur, c'est sans surprise que Disney se taille la plus grosse part avec 11 films et 46 millions d'entrées. Et le premier français, hein, pour à peu près le même nombre de films, réalise 4 fois moins d'entrées. On en a fini maintenant avec les chiffres. On va pouvoir jouer. Je vais vous faire écouter 5 extraits. Ce sont les 5 films finalement qui ont remporté eh bien, le plus de succès en 2019. On commence par le 5e.
T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios ? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau?
Alors, ça a été trouvé, évidemment.
Oui, alors que je ne l'ai pas vu, hein. Oui. Joker.
5,5 millions d'entrées, c'est effectivement. Il se classe en 5e position maintenant, la 4e position.
Je vis comme dans un rêve, Anna. Ah, j'aimerais que ça dure pour l'éternité. Mais le changement nous nargue de toute sa beauté.
T'as dit quoi?
Pardonne-moi, plus je grandis et plus je deviens poète. Dis-moi, toi qui es vieille et qui sais tout, es-tu troublée par l'idée que dans la vie rien ne dure?
Non.
C'est vrai? Waouh, j'ai hâte d'être aussi vieux que toi, comme ça je ne m'inquiéterai plus pour les sujets graves.
Bon, elle n'est pas si vieille, finalement.
Oui, elle a 17 ans, on se calme.
Donc, la Reine des Neiges 2.
Et oui, le 2, 5,8 millions d'entrées, 3e place.
Vous avez fait un malaise?
Non, mais j'ai un petit creux.
Ah, monsieur a faim. Et qu'est-ce qui lui ferait plaisir aujourd'hui?
Je mangerai bien africain.
Ah, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de restaurant africain à Chine, non?
Allez à Tours. Il y a un très bon camerounais près de la gare. Ramenez-moi un dolé avec les millions d'eau et un piment entier.
Je sais que vous traversez une passe difficile en ce moment, André, hein? Mais n'abusez pas. Il y a des limites.
Ouf. Ça a été trouvé, Manu.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, oui, numéro 2?
Que l'on donne un César à cet homme.
Que les gens vont vraiment au cinéma pour la clim.
Alors, un peu. Alors, il paraît qu'il était meilleur que le premier. 6,7 millions d'entrées, mais il a fait moins d'entrées. Allez, je rappelle qu'on joue pour trouver le top 5 des films de 2019 en termes d'entrées. Deuxième position.
Même si nous n'avons qu'une chance infime de défaire ce qu'il a fait, je pense qu'on le doit à tous ceux qui ne sont plus avec nous dans cette pièce.
Et si on se lance, comment être sûr d'arriver à un résultat différent de celui de la première fois?
La première fois, vous ne m'aviez pas.
Hé, hey, la nouvelle. Toutes les personnes ici présentes mènent une vie de super-héros. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que tu foutais toi pendant tout ce temps?
Il y a des tas d'autres planètes dans l'univers qui n'ont pas eu la chance de vous avoir.
Alors, ça a été trouvé, évidemment.
Avengers.
Oui. Endgame, la fin du jeu.
On mène tous suivi de super-héros, ok?
Alors là, ça va être extrêmement facile, mais on ne peut pas s'en priver. On écoute.
Oui, Mufasa aussi est venu ici lorsqu'il avait ton âge. Il a refusé de s'en aller tant que son rugissement n'était pas perceptible du haut de la falaise.
On doit l'entendre de la falaise?
Oui, c'est le test, en quelque sorte. Avec un peu d'entraînement, tu ne seras plus considéré comme un lionceau.
Écoute bien.
Et tu l'as vu, Marine. Et
c'est Aladdin. Oui, c'est le roi lion.
Tout à fait. Donc voilà, avec 10 millions d'entrées, donc largement devant Avenger, puisque Avenger, c'était 6,9 millions d'entrées. Donc voilà, il y a 3 millions d'écart. Ainsi s'achève ce petit point de vue sur l'année 2019. Maintenant, on va t'écouter, toi, Manu, parler d'un film asiatique, cette fameuse coproduction Wet Season, une amitié entre un élève et une professeure. En tout cas, c'est à Singapour et c'est sous la mousson.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Bienvenue à la saison des pluies, traduction du titre anglais original, en fait, Wet Season. Pendant la mousson, des trombes d'eau s'abattent sur Singapour. Le climat est pesant, plus froid que moite. Ling, professeur de chinois plutôt effacé, tente d'avoir un enfant depuis des années avec un mari très pris par son travail, de plus en plus fuyant. Pire, il paraît totalement indifférent au désir de sa femme, absorbé, on va dire, par son train de vie. Il n'est qu'une enveloppe vide, incapable de verbaliser le moindre mot autre que fonctionnel. Alors avec une économie de moyens, Anthony Chen, le réalisateur, montre non pas un couple qui se fissure, mais qu'il est déjà au bord de la rupture. La communication se résume à des phrases dénuées de sentiments. Ce n'est pas un couple en crise qui est observé, mais deux individus qui n'ont plus rien à se dire, à vivre. Ling sait qu'il est trop tard. Pourtant, elle s'accroche à un espoir, celui de tomber enceinte, avec au centre l'illusion que tout irait bien après. Alors, elle reste aussi dans le foyer car elle s'occupe du beau-père, raison de plus pour ne pas fuir. Alors, sa vie se délite, la crise de la quarantaine contamine son quotidien familial et professionnel. Sa vie sociale se réduit au néant, elle n'a pas d'amis, ne sort pas. Elle va alors rencontrer un jeune homme à qui elle va donner des cours de chinois. Leur relation va peu à peu bouleverser l'existence de Ling. Anthony Chen capte dans un premier temps un paradoxe très touchant lié à la personnalité de l'héroïne, résignée et perdue dans sa relation intime et en même temps déterminée dans la quête, dans son désir de vouloir un enfant. Il n'explique rien pourtant, ne s'attarde jamais sur les visages, les situations, il reste constamment à distance, alors préférant là les plans larges aux plans rapprochés. Ce que je remarque souvent dans le cinéma asiatique, justement par rapport au cinéma français quand ils ont traité des sujets similaires. Il y a une approche, je dirais, esthétique et visuelle qui est très très différente. L'élargissement du cadre permet d'inscrire le récit dans un environnement glacial et épuré, alors réduit à quelques lieux dévitalisés, baignant dans une lumière assez terne pour tous les intérieurs, hein, réceptacle traduisant le manque d'amour, la salle de classe, les open space au travail, l'intérieur mortifère de la maison de Ling. L'esthétique clinique s'accorde avec le sujet pour mieux prendre à rebours le spectateur quand la dimension émotionnelle va interférer. La vie en fait réduite à une mécanique monotone et soudain enrayée par une rencontre. Les échanges entre la professeure et son élève se réduisent à peau de chagrin. Ils se contentent souvent de se regarder, de se promener, de faire des trajets en voiture. Lors d'une compétition d'arts martiaux chorégraphiques permettant au jeune homme de gagner une médaille, le visage de Ling s'illumine soudain, elle qui ne sourit pratiquement jamais. Alors heureusement, Wet Season ne s'en tient pas à cette chronique d'un adultère non consommé, car la relation de Ling au jeune homme est très ambiguë. Elle le perçoit comme un amant possible, mais aussi comme un enfant, comme l'enfant qu'elle ne peut pas avoir et qui finalement grandit. Cette approche délicate et ambivalente se traduit à l'écran par des moments de grâce, à commencer par l'insolite première rencontre où ils vont partager un fruit, le durian.
Oui.
C'est un fruit bizarre, j'en ai entendu parler. Qui flirte là avec un peu la transgression, hein, le fruit symbolisant quand même un peu le désir en fait. Alors, par un drôle d'effet virevoltant, le récit s'emballe brusquement dans le dernier tiers, hein, laissant alors les émotions sortir, les corps agir et se blottir jusqu'à la séquence sous la pluie, malheureusement dévoilée par l'affiche, où le romanesque pur s'inflige dans un cinéma très pudique. Alors après le remarqué Ilo Ilo, hein, Anthony Chen retrouve les mêmes comédiens, parmi lesquels la fascinante Yeo Yan Yan, qui est excellente dans le rôle de Ling. Elle est en parfaite osmose avec la mise en scène d'une apparente froideur calculée, mais qui progressivement dévoile ses failles, sa sensibilité à fleur de peau, tout en intériorisant les choses au maximum. Alors un beau film, hein, qui ne se réduit pas immédiatement par son sujet, qui est peut-être austère, mais qui s'apprécie en fait sur la durée. Je trouve que c'est un film assez remarquable et qui surprend vraiment dans ce dernier tiers où d'un coup le film devient presque ressemble presque à un mélodrame en fait.
Donc on le répète, c'est Wet Season de Anthony Chen, un film qui est dans les salles depuis le 19 février, tout comme Sortilège, film tunisien contemplatif et sensitif. On a un peu de temps, on va en parler.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Voilà un film quand même qu'il me sera difficile de chroniquer tant il m'a laissé quelque peu perplexe. Donc il s'agit de Sortilège, film de Ala Eddine Slim, réalisateur indépendant tunisien qui a l'avantage de ne pas creuser le sillon d'un cinéma social auquel la plupart de ses collègues cinéastes sont attachés. Le pitch du film est simple. Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit accorder une permission. Il décide de déserter. En fuite, il s'enfonce dans une mystérieuse forêt où il rencontre une femme enceinte. Les deux vont se réfugier dans une espèce de château d'eau désaffecté, sorte de ventre fécond. Alors, ce qui se passe entre ces deux personnages a de quoi surprendre, de même que leur mode de dialogue, puisque pour se comprendre, ils n'ont qu'à se regarder. Oui, le réalisateur filme leurs yeux en gros plan. Alors, ça pourrait être un clin d'œil à Kubrick, notamment au robot HAL, hein, par exemple. Enfin, je dis ça parce qu'il y a d'autres clins d'œil à Kubrick, notamment le monolithe noir qu'on voit précisément à plusieurs reprises. Et puis, il y a aussi un gros clin d'œil à Full Metal Jacket. Mais sorti de ces références à Kubrick, que le réalisateur tunisien considère comme un maître, eh bien, on devra bien considérer que Sortilège n'en a ni les soucis formels et encore moins narratifs, tant le film paraît quelque peu désordonné. Alors quand on lit le réalisateur, qui heureusement parle dans le dossier de presse, il nous dit que c'est un patchwork de moments, de lieux, de choses personnelles liées à une image, une odeur, une situation, une rencontre, un état d'âme. Plus loin, on apprend que la deuxième partie du film, il l'a écrite en moins de 24 heures. Bon. Alors, quand on pense à Léo Carman, si vous nous suivez depuis ces dernières émissions, qui est le réalisateur français de La dernière vie de Simon, qui a mis 8 ans à faire son scénario, bon, là, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. C'est donc une épreuve avant tout sensorielle, hein, que Ala Eddine Slim nous convie. Alors, formellement très réussi, c'est un film très clivant. Moi, je vous conseille de fumer du cannabis, parce que le réalisateur avoue aussi qu'il écrit ses films en fumant du cannabis.
Ce qui peut
donner une clé, ce qui peut expliquer pourquoi moi, je n'ai pas forcément tout le temps été très, très captivé. En revanche, ça fait partie de ces films qui sont effectivement formellement très beaux et très sensitifs. C'est-à-dire que si on est pris par ce récit, eh bien, on peut être emmené très loin. En revanche, si on n'est pas pris, on reste un peu sur le bord de la route.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, il sera peut-être temps de parler des Césars. On verra ce qu'on peut en dire.